Bonjour à tous et bienvenue dans L'Art, c'est les autres. Moi, c'est Leslie Lucier et je fais partie du réseau des artistes Pigeons et Hirondelles qui est basé dans Lyon. Dans ce podcast, je vais à la rencontre des acteurs du monde de l'art. Ce sont des passionnés qui vont nous aider à décrypter les milieux de l'art contemporain. Pour tous ceux comme moi qui ont envie d'y évoluer. Alors mon objectif, ça va être de remettre mes connaissances, mes jugements en jeu, grâce à ces mentors qui, pendant quelques dizaines de minutes, vont nous donner de précieux conseils, vont nous donner leur philosophie et tout ce qu'ils mettent en place dans leur quotidien et qu'on pourra appliquer, pourquoi pas, à nos propres projets. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à commenter les épisodes sur votre appli de podcast. C'est ce qui me donne le plus envie de continuer. En tout cas, merci d'être là et je vous laisse avec l'épisode de la semaine. Ben écoute, bonjour Alexia, est-ce que tu peux te présenter déjà ?
Ouais, je m'appelle Alexia, je suis chasseur d'art. Je fais des recherches personnalisées d'œuvres d'art pour des particuliers. Depuis peu, je commence sur les hôtels également.
Sur les hôtels ?
Ouais. Donc alors, qu'est-ce qu'un chasseur d'art ? C'est quelqu'un qui aide une autre personne à trouver son coup de cœur plus facilement. Ce qui se passe, c'est que je vais chez les gens, je leur pose tout un tas de questions qui permettent de comprendre qui ils sont et ce dont ils ont envie. Ouais. Et ensuite, en fonction de ce que j'ai compris, je vais pendant un mois à peu près faire des recherches d'artistes qui peuvent correspondre à leurs envies.
Ouais. Alors du coup, ça va être quoi le genre de questions que tu vas leur poser ?
Alors ça peut être aussi bien quels artistes ils aiment volontiers,
ouais,
que la raison pour laquelle ils ont fait appel à moi. Je pense que l'achat d'une œuvre d'art n'est pas anodin comme choix. Du coup, j'essaie de comprendre aussi qu'est-ce qu'ils attendent d'une œuvre d'art. Mmh. Quand ils rentrent chez eux, qu'est-ce qu'ils ont envie ? Est-ce que ils ont envie d'être stimulés ? Est-ce qu'ils ont envie d'être apaisés ? Est-ce qu'ils ont envie de rêver ? Chacun a sa propre lecture d'une œuvre, mais je pense qu'on a tous envie de quelque chose en dehors de l'esthétique.
Ouais.
Et il faut déjà que ça matche côté esthétique, bien sûr. Mais il y a aussi un but.
Donc, ouais. Et tu crois que ce serait intéressant pour les jeunes collectionneurs, par exemple, que ce genre de petites choses apparaissent sur un site d'artiste ? Ou c'est vraiment spécifique à toi, ton métier un peu particulier ?
Non, je pense que ça peut être une bonne idée pour un artiste d'essayer de comprendre ce qu'ils ont sorti d'eux-mêmes peut véhiculer comme message. Mmh. Après, pourquoi pas ? J'essaie de me dire, si demain je vois une œuvre sur un site d'artiste et qu'il commence à parler, pourquoi pas ? Si j'accroche, je lirai.
Ouais, ouais.
Donc ça peut me donner des informations complémentaires et ça peut me donner aussi de l'envie de contacter l'artiste.
Ouais. Et alors toi, du coup, comment ça se passe avec tes artistes ? Comment tu les trouves ?
Alors je les trouve vraiment de différentes manières. Ça peut être soit les portes ouvertes des ateliers. Auxquels je participe, les salons, les foires, les vernissages, du bouche à oreille, par des clients aussi. Parfois quand je vais chez des clients, que je vois un artiste qui me plaît, je vais le contacter par Instagram. J'essaie de rester assez ouverte là-dessus. Et puis après oui, vu que je fais de temps en temps des conférences, j'ai des artistes qui me contactent après.
Donc toi, tu animes des conférences ?
Alors j'en ai animé une récemment à la Condamine qui traitait des nouveaux acteurs du marché de l'art. Et donc il y avait à peu près 120 artistes dans l'assistance et ouais. Du coup ça me permet aussi de faire des rencontres derrière.
Et alors du coup parle-nous un petit peu plus. Donc t'es chasseur d'art.
Ouais.
Parce que je t'ai coupé la parole tout à l'heure.
Ouais, du coup chasseur d'art. Donc j'ai commencé avec les particuliers puisque donc je suis moi-même acheteur et je trouvais que c'était très difficile d'arriver à dégager du temps quand on est en entreprise pour tomber sur son coup de cœur. Aussi j'ai remarqué que les premiers acquéreurs ont du mal à se faire confiance.
Alors, tu veux dire que la première fois que tu achètes une œuvre ?
Ouais.
Et ils se font pas confiance à eux ou à l'artiste ?
Ils se font pas confiance à eux dans leur choix. Et je trouve que c'est dommage parce que je suis convaincue de l'importance de l'art dans notre vie. Mm-hmm. Et j'entendais des personnes de mon entourage qui avaient envie d'avoir une œuvre chez eux, une peinture, une photo, et ils savaient pas vraiment où chercher, et puis finalement ça passait un peu à la trappe parce que bah, on est tous prisés par le temps. Hein. Voilà, du coup, en pensant à ce service, je me suis dit que ça pouvait aussi bien aider ceux qui désirent acheter quelque chose mais qui ont du mal à se faire confiance, et à mettre en avant des artistes auprès d'un public ultra ciblé. Parce que dès lors que je vais chez les clients, donc je fais une recherche de 5 à 6 artistes. Donc les artistes que je contacte, il y a beaucoup plus de chances pour eux de plaire aux clients que si j'envoyais quelqu'un tout azimut sans lui avoir demandé ce qu'il aimait.
Oui, bien sûr. Ouais.
Donc bon, d'un côté, ça permet à l'artiste de pouvoir être visible plus facilement auprès d'un public ciblé, et de l'autre côté, permettre à des gens de tomber plus facilement sur un coup de cœur.
Ouais. Mais alors du coup, qu'est-ce qui peut faire peur? Est-ce que c'est la peur de faire un mauvais investissement ou d'investir dans quelque chose qui est pas vraiment de bon goût?
C'est un ensemble.
Ouais.
Ça dépend des personnes. Ça dépend aussi d'où ils viennent. Quand je dis viennent, c'est quel est leur capital culturel. Si leurs parents aller au musée, s'ils ont des œuvres chez eux, s'ils n'en ont pas, du coup, ils partent de zéro. Donc, ça peut être la peur de faire un mauvais investissement. Clairement, l'art, c'est cher. Mmh. Mon rôle, c'est aussi d'expliquer la raison pour laquelle c'est cher. Parce qu'il y a une personne derrière et qu'on n'achète pas qu'une toile. On achète aussi ses nuits où il réfléchit, où potentiellement il peut ne pas se faire plaisir pendant 3-4 mois parce qu'il vend rien. Donc c'est quelque chose de très particulier. Donc mettre 1000 euros, même pour des cadres qui ont de l'argent à dégager tous les mois, c'est quand même assez important. Donc ils ont besoin d'être sûrs que, d'un point de vue personnel, la valeur qu'ils mettent dans l'achat se vaut. En fait, ça passe à travers un processus. C'est déjà les écouter, ensuite de revenir vers eux avec des choses qui peuvent leur plaire, de leur laisser le temps de parcourir les œuvres, de converser aussi avec leur mari ou leur femme si jamais ils sont deux. Et ensuite, ils peuvent aller voir les œuvres d'art chez les artistes. Donc il y a aussi la rencontre. Le fait d'échanger avec les artistes, ça, c'est un ensemble en fait. Ça crée une histoire qui fait que quand leur coup de cœur est avéré chez l'artiste, quand ils ramènent l'œuvre chez eux, eh bien, il y a déjà l'aspect esthétique qui leur a plu dès le début, mais il y a aussi l'histoire qui ramène. Donc la visite, et quand ils regardent l'œuvre, c'est tout un ensemble. Et moi, c'est ce qui me manquait dans les galeries ou même parmi les maisons de vente aux enchères. Il y a plus cette connexion avec l'artiste et ça me manque. Donc c'est pour ça que pour moi, c'était essentiel de le remettre au goût du jour.
Est-ce que les collectionneurs te demandent de rencontrer les artistes?
Eh bien, tous.
Tous?
Il y en a qu'un seul qui m'a pas demandé. Alors c'était une artiste qui était située près de la Suisse et le couple de clients était basé à Paris. Et en fait non, ils ont fait venir le tableau. Alors moi j'avais vraiment peur parce que je stressais que le rendu final ne leur convienne pas.
Parce qu'il l'avait pas vu en vrai le tableau.
Il l'avait pas vu en vrai, il l'avait vu qu'en photo.
Okay.
Donc c'est assez dangereux et au final non, ça a été encore mieux que sur la photo, donc c'était un coup de bol. Mais non, la plupart. Alors est-ce que les gens viennent à moi parce qu'ils savent qu'ils peuvent aller voir l'artiste je sais pas. En tout cas, pour eux, c'est normal. Donc et d'ailleurs, moi, c'est une partie qui me fait qui est importante aussi pour moi parce que l'artiste est en demande.
Ouais.
Je demande toujours aux artistes que je rencontre savoir si c'est un problème. Et j'ai jamais eu d'artistes qui m'ont dit qu'ils étaient contre. Donc, tant mieux.
Ouais.
Et je pense que c'est important de rencontrer les gens qui admirent son travail. Parce que ça permet d'évoluer aussi. Ça permet d'avoir un retour. De toute façon, les retours marchés, c'est toujours un peu compliqué parfois. Et c'est vrai que j'entends pas mal d'artistes dans les foires et les salons qui se disent que... Oui, le retour de certains est très dur. Bon, c'est sûr, il y en a qui mettent pas les pincettes et puis qui se rendent même pas compte de ce qu'ils disent. Mais bon, je reste convaincue que c'est parfois important de l'entendre.
Ouais, tout à fait, ouais. Mm-hmm. Ouais, tant que ça reste constructif, tout est bon à prendre, quoi.
Ouais.
Ça peut faire que évoluer. Mmh. Est-ce que des artistes t'ont déjà contacté pour te présenter leur travail?
Ouais, bien sûr.
Qu'est-ce que certains artistes ont fait qu'il faudrait pas faire en te contactant?
Comme tout job, on a plein de choses à faire. Et du coup, arriver à dégager du temps pour répondre aux artistes, pour moi, c'est une obligation. Donc, je le fais. Alors, parfois, je le fais avec un peu de retard, mais j'essaie toujours de le faire. Mais il faut quand même mettre un peu les formes parce qu'on consacre du temps pour regarder le travail. Et quand il y a des artistes qui me disent « Ah, bah est-ce que tu peux jeter un coup d'œil à mon travail ?»
Sans envoyer de...
En fait, ouais, sans rien envoyer ou sur mon compte Insta, ça me donne pas envie, en fait. Moi, il faut que ce soit assez rapide, que je puisse potentiellement avoir un book ou quelque chose où en l'espace de 30 secondes, j'arrive à cerner un peu quelle est la direction artistique de chacun et puis me donner aussi l'envie de le contacter. Alors après, ce que je fais, c'est que maintenant, je vais plutôt contacter les artistes dès lors que j'ai un client, parce que bon, j'ai rencontré énormément d'artistes et du coup, je pense que c'est plus efficace de faire inversement que de rencontrer d'abord et ensuite, parce que tout dépend des clients que je rencontre.
C'est-à-dire qu'en fonction de ce que ton client t'a dit, tu vas aller fouiller et puis chercher.
Ouais, exactement. Maintenant, je fais plutôt comme ça. Après, bon, bien sûr, parfois je peux pas m'en empêcher parce que il y a des artistes qui me plaisent tellement que je me dis bon bah tant pis, si jamais ça plaît à personne, ça plaira déjà et puis on verra si un jour.
Du coup, est-ce que les artistes que tu as rencontrés, est-ce que t'as fait un archivage? Est-ce que j'ai vu qu'il y avait un peu des photos sur ton site là?
Oui, alors mon site est un site vitrine.
Ouais.
Donc ça sera jamais un site de vendeur en ligne.
Ouais, bien sûr.
Enfin, en même temps, je dis ça, faut jamais dire jamais, mais en tout cas, j'ai envie de garder l'esprit du service personnalisé. Donc les artistes que j'ai mis dans la galerie, c'est vraiment plus pour donner une idée des œuvres que j'ai été amenée à trouver pour des clients, et aussi parce que ça rassure les visiteurs de dire que potentiellement je peux leur trouver quelque chose qui leur plaise. Alors peut-être que ça leur plaira pas et dans ces cas-là ils me contacteront pas.
Oui,
mais bon, c'est...
Oui, c'est vrai, c'est-à-dire que du coup ça donne quand même un petit peu la direction vers laquelle toi tu es et puis...
Oui.
Alors ça veut dire que toutes les photos d'œuvres qu'il y a sur ton site...
Ouais.
Je rappelle, le site c'est murblanc.com,
ouais.
Tout au pluriel. Toutes les œuvres qu'il y a sur ton site sont déjà vendues.
Non, elles ont été trouvées, donc c'est juste, comme je te disais, il y a six artistes qui sont mis en avant, donc dans les artistes, il y a plusieurs œuvres.
Mmh.
Parfois, j'en propose même 25.
Ouais.
C'est parce que ça s'y prête. Mais non, c'est juste un ensemble d'œuvres que je trouvais intéressant de montrer, mais elles sont pas toutes vendues, non. Mmh.
Alors du coup, c'est l'acheteur ou l'artiste qui paye tes services?
Chacun paye mon service. En fait, ce que je me suis dit, c'est que j'apportais un service à chacun d'entre eux.
Donc ouais,
pour, du côté artiste, c'est un apporteur d'affaires. Donc l'artiste me doit 25% si jamais je lui vends une œuvre, donc sur le prix de l'œuvre. Et le client me rémunère pour le temps passé pour la recherche. En fonction du prix du tableau, je lui demanderai une commission entre 15 et 20%.
Ouais, donc finalement, ça s'y prête bien que les artistes viennent te voir aussi.
Enfin,
te...
Oui, les artistes s'y retrouvent. J'essaye de garder ce 25% parce que j'apporte un service, mais j'ai pas quand même le même rôle qu'une galerie, loin de là. Déjà, j'amène pas les artistes dans les foires. Je suis pas leur carrière, je ne suis pas leur agent.
Et tu développes pas leur visibilité.
Voilà. Enfin, je la développe, mais d'une autre manière. Donc, ce que je fais, je leur permets quand même de temps en temps d'être visible sur les réseaux sociaux, via Instagram, parfois LinkedIn. Puis bon, quand j'écris des articles, j'essaye aussi de mettre en avant quelques œuvres d'artistes. Sur Facebook aussi, bon, j'utilise plein de réseaux, mais ce que je leur dis, c'est que je suis un canal de distribution complémentaire. Et je suis pas là pour me suppléer à leur canaux existants. Et je pense que c'est aussi bien valable pour moi en tant qu'entrepreneur que en tant qu'artiste. Je pense que chacun doit diversifier ces moyens de distribution. À moins d'avoir une chance incroyable qu'une galerie demande une exclusivité et puis fasse un gros job, j'aurais plus tendance à conseiller les artistes de garder une liberté et de rester ouvert à tout type d'acteurs. D'autant plus qu'aujourd'hui, il y a vraiment différentes choses qui se créent. Moi, je prends l'art à l'envers, c'est-à-dire que je pars du besoin et ensuite je propose des œuvres. Mais il y a plein d'autres choses qui existent et ça serait dommage pour eux, parce qu'ils ont donné l'exclusivité, de se couper de différents réseaux. Parce que moi, j'ai un réseau, mais en fait, chaque personne avec qui l'artiste travaille a un réseau aussi.
Ouais, tout à fait.
Donc c'est... Ouais, il faut garder cette idée de réseau. Pour moi, c'est essentiel.
Et en plus, donc en plus de l'aide que le réseau peut évidemment apporter, ça sort aussi l'artiste un peu de l'isolement créatif.
C'est comme tout le monde. Hein. Moi, en tant qu'entrepreneur, je suis obligée de sortir de mon quotidien. Sinon, j'avance pas, je perds du temps. Et ouais, c'est dans l'intérêt de personne. Donc.
Et alors, tu disais tout à l'heure que pour toi, l'art était hyper important aujourd'hui.
Bah, à titre personnel, moi, j'en ai besoin.
Ouais.
Je trouve que ça apporte quelque chose de différent quand on rentre chez soi, en dehors de tout ce qu'on la société nous dicte. Moi, j'ai besoin de voir du beau, j'ai besoin d'être challengée. Donc, j'ai besoin, quand je regarde quelque chose, d'y voir, d'y trouver des choses différentes. En fait, ça me permet d'évoluer, ça me permet de prendre un peu de recul par rapport à ma vie, en fait, par rapport aux choix que je fais. Je pense que, en dehors de l'aspect unique que certains premiers acquéreurs recherchent, même si c'était quelque chose de multiple, c'est pas important, en fait. Ce qui est important, c'est de, en tout cas, moi, je conçois l'art comme un ami.
Ouais.
Et qui va m'aider d'une manière complètement différente de mes amis humains, de me faire évoluer et de me faire du bien.
Voilà. Et alors, tu disais là qu'en général, un premier acquéreur a besoin d'unique. C'est-à-dire qu'il va plus facilement vers l'unique que vers du multiple.
J'aurais pas. En tout cas, quand ils font appel à mon service, ils sont peut-être dans une démarche de quelque chose d'original qu'ils ne puissent pas retrouver chez leurs voisins. Bon, après, aussi, de par la nature de mon service, dans le sens où je fais des recherches d'œuvres à partir de 800 euros. Du coup, ça...
Oui, en dessous, c'est quand même... T'as plus facilement des multiples, même des multiples originales, mais...
Ouais, voilà. En fait, les multiples, je pense que c'est quelque chose qui intéressera plus l'hôtellerie, parce que ils ont plus de chambres à décorer, et dans ces cas-là, le budget est pas forcément énorme pour pouvoir accueillir dans chaque chambre de l'original. En tout cas, les gens qui font appel à moi en tant que particulier sont plus attirés vers la peinture, en premier lieu. Et puis, après, on m'a demandé un peu de sculpture. Mais à mon grand malheur, la sculpture est... je sais pas, ça attire moins les gens.
Ah, c'est drôle, ça.
Je pense que on est dans une société où il y a plein d'objets pas chers, partout, tout le temps. En plus, à Paris, on n'a pas forcément beaucoup de place dans les appartements.
Ouais, tout à fait.
Donc, on sait pas où les mettre. Et pourquoi acheter une sculpture en bronze à 1500, 2000, 3000, alors qu'on peut avoir un objet à 100 euros qui
est un peu déco, tu veux dire.
Ouais, voilà, en fait, c'est... J'ai du mal. Ce que j'ai vendu en sculpture, c'est plutôt du bois, parce que c'est un lien avec la nature. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que dans les choix que mes clients ont faits, je vois que c'est pour combler un manque. Il y a beaucoup... alors, mes clients sont principalement basés à Paris.
Ouais.
Et ils ont une envie d'extérieur, de nature, d'espace. Et je trouve que dans leur choix, c'est souvent ça qu'ils choisissent.
D'accord.
C'est quelque chose qui leur renvoie vers ce qu'ils ont pu. Donc, je trouvais ça intéressant.
Ah, c'est rigolo, je crois que c'est dans Beaux-Arts Mag, là, ils viennent de sortir justement un petit dossier sur les artistes qui réinventent les jardins. Ça doit être dans l'air du temps.
Ouais, bah, ouais.
Tu parlais d'hôtels. Tu commences à démarcher les hôtels, c'est ça?
Ouais, j'ai une piste pour un hôtel sur Roissy. Donc j'espère que ça va me permettre aussi d'avoir d'autres hôtels derrière. En fait, ce qui est intéressant dans l'hôtellerie, c'est que il y a quelques années, les hôtels ont pas été rénovés. Depuis 5-6 ans, ça se rénove à tour de bras. Et l'hôtellerie a constaté que pour fidéliser leurs clients, en dehors du service qu'ils proposent, l'art peut être un moyen pour eux de faire revenir.
Ah ouais?
Ouais.
Et alors dans le changement ou dans le fait qu'il y en ait?
Dans le fait qu'il y en ait, en fait.
Ouais.
Parce que ça permet de... En fait, à travers l'art, on montre qui on est, quelles particularités on a. Donc
ça participe à l'image de marque de l'hôtel.
Ça participe à l'image et... Comment dire? Oui, ça oriente en fait. Ça oriente les clients et parce que l'hôtel ose mettre des choses au mur, eh bien, les clients peut-être vont s'identifier plus facilement ou pas à ce qu'ils proposent. Et là où dans les chambres ils mettaient toujours la même chose avant, pour une question de budget, mais aussi je pense que c'est une question de temps parce que faut pas se mentir, hein, sur un chantier d'hôtel, l'art vient vraiment dernier.
Oui.
On regarde ce qui nous reste après différentes problématiques de chantier. Et bien souvent, on sortait, on est en 1000 exemplaires, une même photo ou une repro. Et donc aujourd'hui, ils souhaiteraient aller tendre plus vers, alors peut-être pas forcément que vers de l'unique, mais en tout cas vers des multiples qui soient un peu plus engagés d'un point de vue esthétique, mais aussi que ce soit des choix qui soient propres aux responsables de l'hôtel. Et pas juste au responsable de la chaîne, qui au final ne connaît pas la clientèle que va adresser tel hôtel à Roissy ou tel hôtel dans le Marais.
Ouais.
Du coup, je pense qu'il y a un attrait vers de la personnalisation. Et donc, c'est là où mon métier a son importance.
Ouais, c'est peut-être qu'ils se servent de ça pour casser le côté chaîne.
Oui.
Parce que c'est pas trop...
En l'occurrence, l'hôtel sur lequel je suis, c'est une chaîne, mais ils vont faire des choix différents de ce que le siège leur propose.
Comment tu trouves tes clients ?
Tout à l'heure, je parlais de l'importance d'utiliser différents canaux de distribution. Moi, c'est la même chose. J'essaye de parler à des conférences. J'essaye de communiquer sur les réseaux sociaux, de prendre la parole, aussi bien sur LinkedIn que Insta. Facebook, j'essaie de comprendre qui sont mes clients pour ensuite leur écrire des articles qui puissent les aider en tant que premiers acquéreurs. Ça peut être des questions assez basiques, hein. Comment acheter sa première œuvre, comment défiscaliser si jamais on peut en tant que particulier, est-ce qu'on peut se faire avoir en achetant une œuvre d'art, ce genre de choses.
Donc c'est des thèmes qu'on peut retrouver sur ton blog.
Ouais, exactement.
Sur le blog de ton site.
Sur le site, ouais. Après, c'est aussi de parler beaucoup de son métier, de rencontrer différentes personnes. J'utilise l'application Shaper.
c'est le site de rencontre pro,
c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est le Tinder professionnel.
T'es la première que je rencontre qui utilise ça fonctionne?
Ouais. En fait, moi, ça me permet de rencontrer différentes personnes. Alors, j'ai jamais eu de client comme ça, mais en réalité, c'est pas important. Ce qui est important, c'est de rencontrer des gens de différents... différents types d'activités qui derrière vont faire des connexions et puis l'objectif c'est de s'entraider donc souvent quand on est sur Shaper on souhaite se reconvertir ou chercher à rencontrer des gens vu que je suis aussi passée par la reconversion j'aide volontiers les gens que je rencontre et moi j'ai rencontré des gens super donc il y a ça puis après l'intérêt du réseau c'est d'essayer de...
Finalement, tu sais pas par où ça va arriver, quoi.
Ouais. Et en fait, moi, c'est ça qui me plaît. C'est que les clients peuvent aussi bien arriver par son réseau personnel que son réseau professionnel, parce qu'on a des articles dans la presse, parce qu'on a écrit un article sur les réseaux sociaux, parce qu'on a été recommandé par ses propres clients. Il faut garder en tête que tout le monde peut être porte-parole de son service.
Et même pour un artiste.
Alors, complètement. Ouais. Pour un artiste, c'est... Parce que l'important pour un artiste, je pense que dès lors que son parcours et son discours artistique est en place, faut en parler, mais c'est pas parce que la personne à qui on en parle ne connecte pas que elle a pas enregistré. Et derrière, potentiellement, si elle entend quelqu'un dans son réseau qui est sensible, je sais pas, à la peinture ou à une... démarche particulière, bah, qu'il va pas lui conseiller d'aller voir cet artiste-là.
Est-ce que toi, t'as commencé à te rendre compte qu'il y a, que t'as presque une démarche de collectionneur? Il y a des choses qui reviennent souvent dans les œuvres que tu trouves pour tes acheteurs?
Oui, je pense que, alors, déjà la peinture, c'est un des premiers choix. Ouais. Ils ont envie de peinture.
Non, mais par rapport à toi.
Ah, par rapport à moi.
Ouais.
Je pensais que j'allais réussir à me dégager de ce que j'aime. Enfin, de proposer des choses qui ne soient pas forcément plaisantes. En réalité, non.
C'est certainement pour ça qu'on viendra te voir aussi. Même s'il y a une grande liberté de choix, j'imagine, dans ce que tu proposes à tes acquéreurs. Ouais. Rien que sur le site, on le voit, certains choix esthétiques, ou même au niveau après des thématiques, enfin bon, bref.
Ouais. Bon, c'est sûr que je suis quelqu'un qui aime la vie, j'aime les couleurs, j'aime le dynamisme, j'aime écouter la musique, donc quand je regarde une toile, dès qu'il y a un peu tout ça, ça me parle directement. Donc, et c'est vrai que dans les clients qui viennent à moi, finalement, ils ont à peu près tous le même profil. C'est-à-dire, c'est des gens qui ont envie de vivre avec des belles choses, qui aiment bouger.
Ils ont quel âge ?
Qui sont gays. Ils ont entre 30 et 45 ans.
D'accord.
Ce sont des gens qui sont cadres, qui sont amoureux de la vie, en fait, qui arrêtent pas de sortir, qui ont envie d'apprendre, qui sont curieux, qui ont envie de découverte, de rencontrer des gens, des artistes, qui bougent, quoi.
Qui bougent, ouais.
Et c'est vrai
qui bouge, qui aime la nature, qui mange un peu bio du coup.
Pas forcément.
Je suis en train d'essayer de faire le personnage.
Ouais, non, pas forcément en fait. Alors là, non, là-dessus, ça peut être un peu différents profils, mais parce que bon, j'essaie de réfléchir à si je peux pas te donner d'autres éléments.
Alors du coup, c'est quoi le budget moyen pour une première acquisition?
On tourne autour des 2000-2005. Vu qu'ils ont envie d'une peinture et que ce soit du coup original.
Et c'est souvent des grands formats du coup.
Ouais. Ouais. Quand on fait appel à moi, c'est souvent pour une pièce un peu maîtresse. C'est la première, donc ils ont envie que ce soit quelque chose qui les encourage à continuer.
Qui marque.
Ouais. Et qui marque. Qui puisse, avec laquelle ils puissent vivre et remarquer tous les jours.
Ok. Et donc si je suis une jeune collectionneuse et que je sais pas comment faire, je te contacte, je fais comment?
Pour me contacter, donc il y a mon site internet, donc murblanc.com, donc au pluriel. Il y a mon compte Instagram, donc murblanc, pareil. Vous pouvez taper aussi Alexia Rigo sur internet, vous tomberez sur mon compte LinkedIn.
Tu écris aussi pour LinkedIn?
Ouais, j'écris sur LinkedIn et aussi sur mon blog.
Est-ce que c'est judicieux de te contacter si on est un artiste et qu'on fait, par exemple, des toiles? J'ai l'impression que c'est plutôt
bien
toiles.
Et... Ah oui, il faut. Enfin, je suis en recherche constante d'artistes dans tous les cas. Donc, si jamais vous êtes artiste,
ouais.
Eh bien, n'hésitez pas à m'envoyer votre book sur alexia.rigo@murblanc.com. Bah, avec, une démarche et puis. Je vous répondrai dans tous les cas.
Tu disais tout à l'heure que tu allais, que tu pouvais rencontrer des artistes en foire.
Ouais.
Ça veut dire que tu n'as pas que des jeunes artistes, en fait. Pas jeunes dans l'âge, mais des. Je sais pas pourquoi, je me suis mis en tête que tu avais que des artistes émergents, en fait.
Ah.
Enfin, émergents. Des artistes en début de carrière.
En fait, j'ai un peu de tout. Vu que l'idée, c'est de proposer des choses qui plaisent à mes clients, en fonction du budget, je vais pouvoir être plus ou moins libre.
Mmh.
Donc, si jamais le budget est un peu plus important, dans ces cas-là, je vais pas hésiter à regarder aussi auprès des artistes qui travaillent depuis quelques années. Si à contrario, le budget est un peu plus faible.
Ouais.
Du coup, ouais, je vais plutôt regarder des artistes émergents qui sortent d'école des Beaux-Arts ou peu importe l'école en fait. Moi, c'est pas vraiment important. de savoir d'où on vient. L'idée, c'est plutôt d'où on a envie d'aller.
Oui, oui,
et,
tout à fait.
Et si, bah, j'ai des artistes qui, d'un point de vue esthétique et d'un point de vue aussi démarche artistique, correspondent à ce que mes clients souhaitent et sont, bah, du coup, je n'hésite pas.
Ouais. Mais ça veut dire, parce que j'ai pas, tout à l'heure, je t'ai posé la question, mais j'ai pas, on a bifurqué sur autre chose. Ça veut dire que tu as des archives des artistes que tu rencontres? Comment ça se passe, toi? Tu les as en tête, tu les connais?
Non,
tu penses...
je les ai tous répertoriés sur mon PC.
D'accord.
Donc, toutes les photos, même que ce soit des artistes qui me contactent où il n'y a pas de clients, mais que j'aime bien, en fait, j'essaye de mettre 2-3 photos de leurs œuvres de côté.
Pour que ça t'impacte visuellement,
voilà,
que tu saches un peu
exactement,
ce que tu remettes.
Exactement, parce qu'en réalité, j'oublie.
Parce que t'en as combien, là, actuellement dans ton...
Oh, j'en ai rencontré, je sais pas, 150. Et... que j'ai mis de côté, y en a pas mal, je saurais pas te dire.
Bref, oui.
Mais par contre, ce que je fais, c'est que quand j'ai un client, je regarde ma liste sur les photos et je vois en fonction visuellement déjà si ça accroche et ensuite d'un point de vue démarche artistique. Donc je les mets de côté parce que sinon, je me suis rendu compte plusieurs fois que j'aimais bien des choses que je le faisais pas, je mettais pas de côté les œuvres. Et en fait, j'oublie. Donc, non, j'ai... Et dès lors qu'il y a un client derrière, je contacte l'artiste, je vais le rencontrer. On parcourt ensemble les œuvres qu'il a disponibles. Ensuite, je lui demande de m'envoyer des photos en haute définition. Et c'est celle-ci que je vais présenter au client. Et après, en fonction, je me constitue un répertoire, en fait, d'œuvres. Et bon, ça m'est déjà arrivé de présenter le même artiste à 2-3 clients. Et à chaque fois, je rappelle l'artiste pour vérifier si les œuvres que je compte présenter sont encore disponibles.
Ouais.
Parce que ça évolue, forcément.
Ouais, bien sûr. Et du coup, tes acquéreurs vont dans l'atelier de l'artiste, souvent? C'est
ouais.
ça que tu disais?
Ouais, la plupart du temps. Ouais. Donc, ce que je fais, c'est qu'une fois que je leur remets le fruit de mes recherches, donc ils font une présélection. Ils réfléchissent un petit peu, souvent. Et après, ils me demandent de prendre rendez-vous avec tel ou tel artiste.
Mmh.
Donc, je prends rendez-vous auprès de l'artiste. Et puis après, ils se rendent compte sans moi. Parce que je trouve que ils ont pas besoin de moi dans cette
pour
découverte
ça.
Pour ça.
Mmh.
Donc, l'échange est mieux.
C'est vrai que c'est toujours un peu le mythe, tu sais, le collectionneur, quoi.
Bah, moi, j'ai un peu du mal avec la notion de collectionneur. Déjà, quand on achète, avant de se dire collectionneur, il faut qu'on achète énormément. Il faut que les autres nous disent qu'on est collectionneur. Mais même, enfin, sans ça, je sais pas. Moi, j'ai un souci avec ce terme-là. Je pense que pour moi, un amateur d'art, c'est plus...
Est-ce qu'il n'y a pas ce truc-là un amateur d'art, un acheteur d'art,
ouais.
Au début de sa quête, voilà, il est, c'est un amateur, quoi.
Ouais.
Et dès que sa recherche, elle devient quasiment professionnelle, il furte, il cherche lui-même, il va,
ouais.
Tu vois, et ça devient.
Oui, c'est vrai. Ça
tu vois,
une profession.
C'est pas tout à fait une profession parce qu'il revend pas toujours et du coup, il gagne pas forcément d'argent avec ça.
Oui.
Mais il a affiné son regard, il connaît sa propre démarche artistique, même si c'est une démarche qui se matérialise par l'achat d'œuvres d'art. Mais en tout cas, j'imagine qu'il a, il va plutôt sur soit un registre de couleurs, soit une thématique, soit même une technique, pourquoi pas, ou plusieurs choses à la fois. Tous les grands collectionneurs, quelqu'un qui s'y intéresse un peu,
ouais.
Connaît ces thématiques, quoi.
Oui, oui, t'as raison. Un collectionneur se cherche aussi. Ouais, c'est vrai. Amateur d'art, c'est peut-être pour les premiers acquéreurs, finalement. Et moi, d'ailleurs, je parle plutôt d'amateur d'art que de collectionneur. Parce que le terme de collectionneur, ça fait peur. Et vu qu'on se qualifie pas de collectionneur, on se sent pas concerné. Et le problème, c'est que si les gens ne sont pas concernés, se sentent pas concernés, mais à qui on parle.
Eh oui, oui, exact, oui.
Donc, non, pour moi, ce sont des gens qui sont sensibles à l'art.
Ouais.
Qui sont qui sont connectés ou qui ont envie de se connecter un peu plus à eux-mêmes, à ce qu'ils ressentent, à aussi accepter de dégager du temps pour l'art, parce que l'art, ça, enfin,
ouais.
On peut pas arriver à se connecter à soi-même si on passe pas du temps devant. Et ça je l'ai appris avec le temps. C'est pas que l'aspect esthétique, c'est pas qu'une couleur qui plaît. C'est, enfin, à mon avis, c'est bien au-delà de ça. Donc c'est pour ça que bon, le collectionneur, ouais, c'est un terme qui fait peur, que j'utilise pas.
Mmh.
Et je préfère plutôt parler, ouais, d'amateur d'art, en tout cas pour les premiers hackers.
Ok. Écoute, je te remercie, Alexa.
Pas de rien. Merci de m'avoir invité.
De rien. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. On se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, si l'interview vous a plu, n'hésitez pas à le dire, à l'interviewer dans ses réseaux sociaux. Je vais mettre les liens en description. Ça lui fera super plaisir. Ça permet de faire savoir que l'art, c'est les autres, est écouté. Et puis vous-même, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à faire des feedbacks, c'est hyper important pour moi. À proposer des invités aussi, ou des sujets qui vous intéressent. Et puis je ferai mon possible pour vous répondre et échanger avec vous.
Si vous êtes artiste et que vous avez envie de nous rejoindre dans le collectif Pigeons et Hirondelles, n'hésitez pas à nous laisser un message sur Instagram ou sur Facebook. Donc pigeons.hirondelles. Le tout au pluriel, ou bien sur notre site www.pigeons-hirondelles.fr. On sera super content d'en parler avec vous, de vous présenter toutes nos actions et pourquoi pas de vous compter parmi nous.
Si vous connaissez quelqu'un à qui ce podcast peut plaire, je vous invite évidemment à le partager sur les réseaux. Ça permet à de plus en plus de gens de connaître le podcast. Et puis moi, ça me fait du bien. Voilà. Et ben, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine.